Vous écoutez La Fabrique Nantérienne, un podcast imaginé par les enfants pour répondre aux petites et aux grandes questions. À chaque épisode, une nouvelle thématique.
Et pour bien tout comprendre, des journalistes en herbe qui fabriquent leur futur dans vos oreilles.
Épisode 5, une production Radio Agora disponible à chaque vacances scolaires avec un nouvel épisode.
Bonjour à tous, il est midi et vous êtes à l'écoute de Radio Agora. Je me présente, je suis Harry, je suis en compagnie de 7 autres enfants de 8 à 12 ans. Je suis ravie d'animer cette émission. Et à mes côtés, à l'animation de cet épisode, Jeanne.
Bonjour Harry, pour ce 5e épisode de La Fabrique Nantérienne, tourné pendant les vacances de février, nous vous proposons un épisode dédié à l'eau. 2 milliards de personnes n'ont pas accès à l'eau potable sur la planète. Avec le réchauffement climatique, ce chiffre devrait encore augmenter. L'année 2023 a été la plus chaude jamais enregistrée. L'eau est au cœur de la crise climatique, alors que son accès devrait être un droit fondamental. L'eau, cette ressource de plus en plus précieuse, c'est parti!
Pour commencer cette émission, nous voudrions d'abord vous raconter le début de notre stage de journalisme en herbe, à l'Agora, la fabrique des futurs. Lorsque nous avons commencé à parler du thème de l'émission « L'eau », nous nous sommes rendus compte que chacun dans sa famille avait des histoires liées à cette ressource. Alors, du Maroc à l'Ukraine, nous voulions vous partager ces témoignages. Nous débutons avec Mehdi qui a habité au Maroc pendant 18 ans. Le pays va peut-être connaître sa 6e année de sécheresse de suite. Alors que l'eau potable était devenue de plus en plus accessible dans ce pays, l'approvisionnement des villes et des villages est aujourd'hui menacé. Mehdi nous raconte la situation dans le pays hier et aujourd'hui. Il répond à une question de Jeanne, sa fille.
Bonjour, quelle est la différence entre en France et au Maroc sur l'eau ?
Alors, on manque d'eau au Maroc. En France, il y a beaucoup plus d'eau qu'au Maroc. Et c'est ce qui explique que le prix de la bouteille d'eau est presque au même prix qu'en France, alors que le pouvoir d'achat est 5 fois inférieur qu'en France. Et du coup, y en a beaucoup qui achètent l'eau aux dépens d'autres choses. Voilà. C'est-à-dire que les pauvres boivent l'eau du robinet, et si on est riche, eh bien, on achète l'eau en bouteille.
D'accord. Pourquoi l'eau de la bouteille au Maroc, elle est plus chère?
Parce qu'il n'y a pas beaucoup de ressources, pas beaucoup de sources d'eau, pas autant qu'en France. Il pleut moins. Il pleut moins qu'en France.
Bon, c'est à cause de la sécheresse qu'il y a moins d'eau.
Oui, à cause de la chaleur, du réchauffement climatique, de la chaleur. Bon, la remarque, ça fait beaucoup plus longtemps que ça, mais ça remonte à il y a longtemps. Mais oui, quand ça chauffe, il y a moins d'eau. Ça s'évapore.
Et est-ce que vous avez grandi au Maroc ou vous avez encore de la famille là-bas ?
Oui, j'ai grandi au Maroc jusqu'à l'âge de 18 ans. Et après, je suis venu en France. J'ai fait mes études ici et puis je me suis marié avec la maman de Jeanne.
Et est-ce que du coup, au Maroc, pendant votre enfance, il fallait aller chercher de l'eau ? Enfin, comment ça s'organisait là où vous viviez ?
Alors, ça dépend. Moi, j'habitais en ville, à Tanger. C'est une grande ville. Il n'y avait pas spécialement beaucoup de problèmes d'eau. Je me rappelle en 94, par contre, il y avait la sécheresse. Et on était obligé d'aller chercher de l'eau ailleurs. Donc c'était des voisins qui avaient un puits d'eau. Et on allait remplir les bidons chez lui. Ça a duré, je ne sais plus si c'était 6 mois ou 1 an, j'étais un peu petit. Ouais. Sinon, le reste du temps, quand il y avait des crises comme ça, on remplissait et ils nous ouvraient l'eau 2 heures par jour, par exemple. Voilà. Alors aujourd'hui, je parle toujours de Tanger, il y a beaucoup moins de problèmes. d'eau courante, donc c'est, il y a tout le temps de l'eau. Par contre, dernièrement, comme il manque d'eau aussi, ils ont fermé les, tout ce qui est hammam, tout ce qui est garage, lavage de voiture, ben, ils l'ouvrent que 3 jours par semaine, justement parce qu'on manque d'eau. Voilà. Sinon, dans le village de mes grands-parents, là c'est différent. Parce que là, il n'y avait pas l'eau, on appelle ça l'eau courante. C'est-à-dire que les gens qui avaient des puits d'eau, bah, ils pouvaient boire et donner de l'eau aux voisins. Et sinon, bah, même pour acheter de l'eau, il n'y avait pas, enfin, à une certaine époque. Aujourd'hui, si, ils peuvent acheter.
Donc, c'était des conditions quand même très difficiles, quoi.
Ah oui, on avait des voisins de ma grand-mère, il y avait la queue. Parce que nous, on avait un puits. Donc, il y avait la queue tous les matins de gens qui venaient avec leur seau et leur grande bouteille. On appelle ça des, pas des barils, mais des
bidons.
Des bidons, voilà. Ouais. Des bidons de 10 litres, de 20 litres. Et donc, tous les matins, il y avait une queue. Et les gens, ils passaient et à la corde. Ils tiraient, ils remplissaient leur bidon d'eau, ils partaient. Voilà. Ouais, c'était comme ça. C'était un peu différent de la ville. Voilà.
Merci Mehdi pour votre témoignage qui nous permet de mieux comprendre ce qu'il se passe au Maroc. La guerre peut aussi impacter l'accès à l'eau. C'est ce que nous explique Tamara, 73 ans, dans son interview. Elle est ukrainienne. Elle nous raconte comment la guerre de son pays menace l'accès à l'eau. Tamara est interrogée par son petit-fils Alexis.
Comment on accède à l'eau en Ukraine habituellement ?
Habituellement, comme partout dans le monde, il y a de l'eau courante dans mon foyer, l'eau chaude, l'eau froide. Au magasin, on paye les bouteilles. Tout était normal.
Est-ce que la guerre a changé les choses ?
Oui, changé. Imaginez, vous devez descendre de vos étages avec des bobines de 6 litres pour aller chercher de l'eau vers les citernes qui sont réparties dans les quartiers de la ville. Vous revenez avec le poids, vous montez, ça change, ça a beaucoup changé.
Tu vis dans quelle ville en Ukraine ?
J'ai vécu à Mykolaiv, c'est au sud-ouest de l'Ukraine. C'est une ville qui est pas loin de la mer Noire et qui est située à l'embouchure de deux fleuves, le Boug du Sud et l'Engoul. Alors, ma ville est entourée d'eau de trois côtés et paradoxalement, aujourd'hui, elle n'a pas d'eau. Elle est privée.
Et qu'est-ce qui s'est passé qui empêche le circuit de l'eau de fonctionner ?
Quand la guerre a commencé, dans un mois, au mois d'avril, la plateforme de distribution des conduits d'eau a été bombardée, détruite. Et de ce temps-là jusqu'ici, il n'y a pas d'eau potable. Il y a l'eau technique, mais potable, non. On continue à se servir des
bonbonnes d'eau.
Voilà. C'est devenu le symbole de notre ville. Tous les vieux, les jeunes se promènent avec.
Et du coup, ça a changé le quotidien ? Comment vous utilisez l'eau différemment ?
Oui, pour la canalisation, pour chasse d'eau, c'est l'eau technique. Pour laver peut-être le plancher, les choses même. Ça va aller, mais pour consommer, non. Il faut descendre pour aller au magasin ou peut-être il y a des points de distribution que les autorités ont organisés. Les premiers mois, toute la population de l'Ukraine, surtout les habitants des villes voisines, ont soutenu les habitants de Mykolaiv. Ils ont pris leur voiture, rempli des réservoirs de toutes sortes pour amener de l'eau. Mais puis, l'aide internationale est venue. Et grâce à cette aide internationale, et des Français surtout, On a apporté à nos collègues des machines, je ne sais pas comment ça s'appelle, pour bourrer des puits. Et on en a fait partout dans la ville, dans plusieurs quartiers. Et voilà, il y a des points ou des endroits, des sites où on peut se procurer de l'eau. D'abord, il y avait de grandes queues. Maintenant, ça s'améliore un peu et on peut ne pas dispenser son temps pour faire la queue, pour recevoir de l'eau et puis la porter chez soi. Voilà.
Merci beaucoup pour cette interview, Tamara, qui nous permet de mieux comprendre la situation ukrainienne. Arij, il me semble que tu as aussi fait des petites recherches sur le sujet. Tu t'es penchée sur l'accès à l'eau en Palestine. On t'écoute.
En Palestine aussi, le conflit impacte l'accès à l'eau. À Gaza, la situation était déjà difficile. Avec la guerre, cela s'est encore aggravé. Le risque, c'est le développement de maladies d'épidémies. En Cisjordanie, l'accès à l'eau était moins compliqué grâce à trois grandes sources. Celle du fleuve qui sépare la Cisjordanie de la Jordanie, celle des nappes phréatiques, celle du mont Hermon, partagée entre la Syrie, le Liban et la Palestine, mais ces derniers mois, à cause du conflit, la situation a empiré. L'accès à l'eau des Palestiniens aujourd'hui est donc très restreint. La situation palestinienne illustre que les guerres et les conflits sont aussi l'occasion de faire pression sur l'eau. Cela nous rappelle combien cette ressource est fragile et nécessaire.
Merci Arij pour cette chronique très intéressante. Pour approfondir ce sujet en musique, voici la chanson « C'est de l'eau » interprétée par les Enfants Fantastiques.
Vue de la lune ou de Jupiter, de tout là-haut y a pas de mystère. La planète bleue, oh que c'est beau, c'est de l'eau. Dans les rivières et dans les étangs, petites mares et grands océans, tous les lacs, les torrents, les ruisseaux, c'est de l'eau, c'est de l'eau. La rosée sur les herbes et les fleurs, la nature et ses mille couleurs, le grand chêne et le petit roseau, c'est de l'eau, c'est de l'eau.
Picasso, c'est de l'eau.
protège bien au chaud.
C'est de l'eau, c'est de l'eau.
Une chanson qui nous rappelle combien l'eau est essentielle à la vie sur Terre. En France, nous avons de la chance, presque toute la population a accès à l'eau. Il nous suffit d'ouvrir le robinet pour nous laver, cuisiner ou boire. Mais comment cette eau arrive jusqu'à nous, les Nantériens ? Pour répondre à cette question, Soukaina, Alexis et Josepha ont interviewé un expert du sujet, Raphaël Pia, directeur des services techniques chez Cenéo, la société chargée de la production et de la distribution de l'eau potable à Nanterre.
Allô ?
Allô ? Bonjour Monsieur Pia, nous allons vous poser quelques questions sur l'eau.
D'où provient l'eau avant d'être traitée ?
Alors sur notre territoire, l'eau qui est produite au niveau de l'usine de production d'eau potable du Mont-Valérien, c'est de l'eau de la Seine. Donc c'est vraiment l'eau de Seine, l'eau du fleuve, hein, ni plus ni moins. Elle est prélevée à Suresnes, sur la commune de Suresnes, juste en amont de l'écluse qui est présente sur la Seine au niveau de Suresnes.
Comment l'eau est distribuée ? Comment arrive-t-elle à notre robinet ?
Je peux très rapidement peut-être vous faire le chemin de l'eau une fois qu'elle est prélevée en bord de Seine. Elle va d'abord être pompée dans une station de pompage qui est située juste en bord de Seine et remontée à travers trois gros tuyaux jusqu'à l'usine de production d'eau potable du Mont-Valérien. Donc là, vu que la question porte plutôt sur la distribution, je ne vais pas vous rentrer dans le détail du traitement, on pourra en parler après si vous le souhaitez, mais elle traverse l'usine et donc là, elle est potabilisée, elle est rendue potable. Elle devient l'eau que vous voyez quand vous ouvrez le robinet. Elle est stockée ensuite dans des réservoirs. Le gros des réservoirs est sur l'usine d'ailleurs. On y stocke plus de 20 piscines olympiques. Et ensuite, l'eau part sur le réseau à travers des tuyaux. Donc il faut imaginer qu'en gros, il y a un tuyau d'eau sous chacune des rues dans les différentes villes qui sont alimentées. Donc à Nanterre, vous avez un tuyau d'eau dans chaque rue, en fait, hein, tout bêtement. Donc l'eau en fait va avancer dans ces tuyaux là jusque dans les habitations, jusque dans votre école, et juste devant votre école vous allez avoir ce qu'on appelle un branchement. C'est un plus petit tuyau qui est directement piqué sur la conduite qui est dans la rue et qui va venir pour rentrer dans votre bâtiment avec un petit compteur pour mesurer les volumes qui sont consommés. Et ensuite, c'est connecté après au réseau à l'intérieur du bâtiment, de votre maison, de votre école, qui va amener l'eau jusqu'à chacun des robinets, chacune des chasses d'eau. Voilà.
L'eau peut-elle être polluée ?
Alors, l'eau, elle peut être polluée. Alors, le terme pollué est peut-être un peu anxiogène, il fait un peu peur. Ce qui se passe, c'est que l'eau de la Seine, elle peut se charger en matières qui sont indésirables et qu'il va falloir traiter et enlever par trois types d'activités. On va avoir les activités, on va dire, domestiques. En fait, c'est les activités humaines que vous et moi, on peut avoir quand on prend une douche, quand on va aux toilettes, quand on fait la vaisselle ou la lessive. On va mettre des éléments, des saletés, on va mettre des éléments indésirables dans l'eau. Cette eau-là va ensuite, si tout est bien fait, va par le réseau d'assainissement arriver jusqu'à une station d'épuration qui va en fait enlever la majeure partie de ces saletés de l'eau. Mais si c'est fait de manière imparfaite, s'il y a de l'eau qui sort du réseau d'assainissement qui retourne directement au milieu naturel, on peut retrouver des traces de cette activité elle-même dans l'eau et qui va se retrouver dans la Seine et donc qui peut se retrouver dans l'eau qu'on va devoir traiter. Le deuxième facteur de pollution, ça peut être les activités agricoles, les champs, tout ce qui peut être fait en épandage, en pesticides. Et voilà, donc ça va amener certains types d'éléments indésirables dans l'eau, notamment par exemple les pesticides qu'on connaît bien. Et enfin, la troisième type d'activité, c'est tout ce qui va être activité industrielle. Donc là, c'est toutes les industries qui peuvent être situées sur le bassin versant qui alimente la Seine et qui, si pareil, les process ne sont pas parfaitement respectés, peuvent relâcher des éléments indésirables dans l'eau. Donc ça, c'est les trois sources principales de pollution. Et donc le principe de notre usine, c'est de traiter les principaux polluants qui pourraient arriver. Alors, il y a certains polluants que l'usine pourrait traiter assez facilement, d'autres qui sont plus compliqués à traiter. Et donc, il y a un vrai enjeu de protéger la ressource et d'éviter qu'il y ait trop de pollution en amont, avec les enjeux sur les pesticides qu'on connaît, donc c'est-à-dire éviter qu'il y ait trop de pesticides ou des pesticides trop dangereux qui soient épandus dans les champs, qu'au niveau des industriels, les traitements sur les eaux de process de ces industriels soient bien effectué pour pas qu'il relâche de polluants dans le milieu naturel. Et enfin, que l'assainissement fonctionne bien pour que les pollutions domestiques liées à la vie courante des gens ne viennent pas polluer la ressource.
Merci Raphaël Pia pour vos réponses éclairantes sur ce sujet. Pour creuser davantage cette thématique, nous avons choisi de demander aux Nantériens comment ils consomment cette eau. Un micro-trottoir réalisé par l'ensemble des journalistes en herbe.
Je m'appelle Jacques-Yves, je travaille à Europe Carrelage.
Buvez-vous de l'eau en bouteille ou en robinet ?
En robinet, mais filtré.
Pourquoi ce choix ?
Parce que c'est plus économique et puis je protège l'environnement par rapport au plastique.
Savez-vous d'où provient l'eau que buvez-vous ?
Je suppose que c'est dans une source. Et je ne sais pas trop.
Buvez-vous de l'eau en bouteille ou en robinet ?
Alors, de l'eau du robinet, et ça arrive pour mon bébé d'acheter de l'eau en bouteille.
Pourquoi ce choix ?
Je pense que l'eau du robinet est assez propre pour être bue.
Et pourquoi pour les bébés, du coup, on prend de l'eau en bouteille ?
Alors, j'avoue que c'est des conseils qu'on m'a donnés, mais je ne me suis pas penchée davantage sur la question. Et c'est vrai que j'aimerais bien avoir des informations pour savoir si l'eau du robinet est assez bonne pour mon bébé.
Savez-vous d'où provient l'eau que vous buvez ?
Non, pas du tout.
Passez-vous combien de temps sous votre douche ?
Ah, en hiver, peut-être 10 minutes, 15 minutes quand même. C'est beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci.
Juste votre prénom peut-être ?
Blandine.
Je m'appelle Claudine, j'ai 73 ans, j'habite dans le quartier.
Quelle eau buvez-vous ?
Ben, je bois l'eau du robinet parce que je pense qu'elle est aussi bonne que les autres. On m'a dit qu'elle était saine et que acheter des bouteilles d'eau, le plastique, ça ne me plaît pas. Bon, on vient d'entendre en plus récemment qu'elle n'était pas forcément tout à fait conforme. Donc bon, je trouve que c'est très bien. J'ai tout fait ça, toujours comme ça. Donc je continue.
Savez-vous d'où provient l'eau que vous buvez ?
Je sais qu'elle est épurée là-haut au Mont Valérien, elle est nettoyée là-haut.
Faites-vous attention à votre consommation d'eau ?
Oh oui, beaucoup, oui, je suis du genre économe, oui. Oh oui. Comment ? Ben, en prenant des douches rapides, en laissant jamais le robinet couler pour rien. Voilà.
D'accord. Combien de temps restez-vous sous la douche ?
Oh, très peu. Je mouille, je savonne, je rince.
D'accord. Merci.
Voilà.
Buvez-vous de l'eau en bouteille ou en robinet ?
Je bois de l'eau du robinet.
Pourquoi ce choix ?
Parce que je trouve qu'elle est tout à fait consommable et elle répond aux besoins que j'en ai, quoi. J'ai pas envie d'acheter de l'eau en bouteille qui est beaucoup trop chère.
Savez-vous d'où provient l'eau que vous buvez ?
D'une société dont j'ai oublié le nom, mais elle provient des stations d'épuration de la région parisienne, je suppose.
Faites-vous attention à votre consommation de l'eau ?
Oui, tout à fait, oui. On est très regardant sur les économies d'eau qu'on peut faire. On fait attention à ne pas laisser les robinets ouverts quand ce n'est pas nécessaire. Chez moi, pour avoir de l'eau chaude en haut, je dois faire couler beaucoup d'eau froide. Donc plutôt que de la laisser couler, parce qu'elle devient chiante, on la récupère pour d'autres usages, pour les toilettes, pour le jardin, pour faire des choses comme ça. Voilà.
Ok. Est-ce qu'on peut juste avoir votre prénom ?
Jérôme.
Ok, merci beaucoup.
Merci.
Je m'appelle Alexandre, j'ai 9 ans.
Quelle eau buvez-vous entre celle en bouteille ou celle du robinet ?
Celle du robinet.
Pourquoi ce choix ?
Pourquoi ce choix ? Ben parce que je la trouve un peu plus pure.
Savez-vous d'où provient l'eau que vous buvez ?
Des montagnes.
Tu prends plutôt des douches ou des bains ?
Des douches. Mais les bains, c'est bien aussi parce qu'on peut s'amuser, mais c'est pas bien parce que bah, on gaspille un peu d'eau.
Merci beaucoup.
Merci.
Merci à toutes les personnes qui nous ont répondu. Maintenant que nous avons une idée de comment l'eau est consommée à Nanterre, je vais laisser la parole à Selmé. Il va nous donner quelques chiffres clés sur l'utilisation de l'eau.
Bonjour à tous, je vais vous expliquer dans notre vie quotidienne notre consommation d'eau. D'abord, direction la maison avec la salle de bain. Il y a les toilettes, une chasse d'eau, cela représente jusqu'à 12 litres d'eau, une douche de 5 minutes, 80 litres, le bain c'est deux fois plus. Ensuite, laissez couler le robinet 3 minutes, cela correspond à 18 litres. Pour finir, si vous avez une piscine, vous utilisez 50 millilitres pour la remplir. Maintenant, nous allons nous intéresser à nos achats. Par exemple, 10 litres d'eau sont utilisés pour fabriquer une feuille de papier. S'habiller aussi consomme beaucoup d'eau, fabriquer un t-shirt, en comptant de moins de 3000 litres. Enfin, la nourriture que l'on mange est gourmande en eau. Pour produire un kilo de viande de bœuf, il faut plus de 500 000 litres d'eau. Pour cultiver un kilo de tomates, 180 litres d'eau sont nécessaires. Tous les jours, chacun utilise donc des milliers de litres d'eau.
Merci Selmen pour ces chiffres, grâce auxquels on comprend mieux la consommation et la nécessité de l'eau. Voici venu le temps d'une nouvelle pause musicale avec la chanson « L'eau » du duo Walter Astral. Elle nous raconte que tout commence par l'eau.
Tout a commencé dans l'eau salée. Tout a commencé dans l'eau salée.
C'est donc l'origine de la vie. C'est aussi un bien précieux que nous devons de plus en plus préserver. Mais que se passe-t-il en cas de sécheresse? Pour répondre à cette question, Alexis et Josepha ont interviewé Kenzie Gauthierou, adjoint à la mairie de Nanterre et vice-président de la CNEO.
Combien de litres d'eau sont distribués par jour?
Par jour, on a à peu près, si je me souviens bien, 64 000 litres cubes d'eau distribués tous les jours, H24, 7 jours sur 7, même les dimanches.
Comment faites-vous pour gérer les périodes de sécheresse?
Alors, nous, on prélève essentiellement dans la Seine. Mais on a également possibilité de prélever dans des nappes phréatiques, c'est-à-dire l'eau qui est sous terre, et on est également en connexion, les réseaux, les canalisations d'adduction d'eau potable sont connectés avec d'autres syndicats qui prélèvent de l'eau ailleurs, Donc, en cas de besoin, on peut prendre de l'eau ailleurs que dans la Seine. Après, comment on gère les périodes de sécheresse? Je vous avoue que la Seine, même quand elle a un niveau d'eau bas, on appelle ça un étiage, même quand l'étiage est assez bas, du côté de Suresnes, on arrive quand même à prélever suffisamment d'eau pour alimenter tout le territoire de Seine-et-Oise. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficultés, parce que lorsqu'il y a moins d'eau, il y a plus de pollution dans l'eau, donc ça nous complique un petit peu la tâche pour potabiliser l'eau, c'est-à-dire la rendre pure et buvable pour toutes et tous.
La mairie met-elle des restrictions en place?
Alors, jusqu'à présent, non. On n'a pas de restrictions au sens propre du terme. Par contre, en été, effectivement, on demande à tout un chacun de faire attention, de dépenser le moins d'eau possible, de rationaliser sa consommation en eau, justement pour éviter les risques de pénurie.
Peut-on craindre d'ouvrir notre robinet et qu'il n'y a pas d'eau qui sorte?
Alors, non. À l'heure actuelle, non. Il y aura toujours de l'eau, sauf s'il y a une casse ou une réparation en cours. Pour l'instant, on n'en est pas là. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y penser, parce qu'effectivement, la ressource en eau se fait de plus en plus rare, et il pourrait arriver, si on ne fait rien, qu'un jour, qu'il n'y ait plus d'eau au robinet. Mais avant qu'il n'y ait plus d'eau dans les robinets, il n'y aura plus d'eau dans les rivières, et ça, on le verra énormément.
Quel conseil avez-vous pour les habitants?
Alors, de faire les éco-gestes. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Les éco-gestes, ce sont tous les petits gestes du quotidien qu'on peut et même qu'on doit faire pour réduire sa consommation en eau, c'est-à-dire prendre des douches moins longues, à peu près 5 minutes, de regarder si on n'a pas de fuite d'eau, notamment dans les toilettes, de faire la vaisselle en coupant l'eau, en ne laissant pas l'eau couler, idem lorsqu'on se brosse les dents. Ce sont tous ces petits gestes qu'on peut faire pour limiter la consommation d'eau sans limiter notre confort et permettre à tout un chacun d'avoir de l'eau aujourd'hui et demain.
Merci Kenzi Gauthier. Mais alors, comment limiter le gaspillage? Quelques conseils avec Jeanne.
Prendre une douche plutôt qu'un bain, sinon un bain sans beaucoup d'eau. Essayez de se chronométrer sous la douche. Évitez de laisser l'eau couler inutilement quand on met du savon, du dentifrice. Tirez la chasse d'eau en appuyant sur le bouton adapté quand il est intégré aux toilettes. Une chasse d'eau consomme entre 6 à 12 litres d'eau. 6 pour le petit bouton, 12 pour le grand. Quand il nous reste de l'eau dans la gourde, la carafe, etc., utilisez-la pour arroser les plantes. On peut aussi utiliser l'eau de pluie.
Merci Jeanne pour ce conseil. Il est important de les suivre car l'eau va devenir de plus en plus rare, notamment à cause du réchauffement climatique qui perturbe le cycle de l'eau. Pour en savoir plus sur ce sujet, nous accueillons Abdel Jalil et Youssef.
Bonjour à tous. Nous allons vous parler du réchauffement climatique qui perturbe le cycle de l'eau. Savez-vous que chaque degré supplémentaire accélère la fonte des glaciers et cela fait monter les eaux? Dans quelques années, certaines villes proches de la mer pourront être inondées, voire disparaître.
Dans les champs, comme il fera plus chaud, l'eau va s'évaporer davantage de la terre. Et cela pourrait provoquer des sécheresses. Les pluies seront aussi plus rares, mais plus puissantes. Dans certaines zones du monde, les températures vont être extrêmement chaudes et deviendront mortelles pour l'homme.
Merci Abdel Jalil et Youssef pour cette chronique sur l'impact du réchauffement climatique sur l'eau et ses conséquences. Et merci à tous les journalistes en herbe de ce stage. Youssef, Abdel Jalil, Soukaina, Josepha, Selmen, Alexis, Jiane et moi-même, Arij. À la réalisation et à l'animation du stage, Roman Pellen, Pauline Pellissier et Marie Fortunato. À l'animation de cette émission, Jeanne et moi. Bonnes vacances à tous et toutes.
Regardez comme le soleil brille, écoutez comme les oiseaux chantent, écoutez comme la ville et le monde bougent, et comme on bouge avec. de Jupiter. De tout là-haut, il n'y a pas de mystère. La planète bleue, oh que c'est beau, c'est de l'eau. Dans la rivière et dans les étangs, petites mers et grands océans. Sous les lacs, les torrents, les ruisseaux, c'est de l'eau, c'est de l'eau.